Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette invitée de la rédaction consacrée aujourd'hui à un domaine gourmand et j'ai le plaisir pour cette journée d'accueillir avec nous David Schnee. Bonjour David Schnee.
Bonjour Dan.
Vous êtes l'auteur d'un magnifique livre, Rumpelsbourg, j'espère que je l'ai bien dit, Souvenirs, anecdotes et délicatesses sur la cuisine alsacienne de votre enfance. Nous en reparlerons dans quelques instants. Nous sommes également accompagnés aujourd'hui de Mireille Israël. Bonjour Mireille Israël.
Bonjour Dan.
Je devrais démarrer en disant que vous êtes d'abord une colmarienne, professeure d'histoire, mais je ne le dirai pas. Je préciserai simplement que vous êtes consultante en histoire culturelle, en vin israélien et en cuisine judéo-israélienne. Vous faites pour cela des causeries et vous allez causer avec nous et David Schnee de ce magnifique ouvrage Rumpelsbourg, pour lequel nous allons échanger aujourd'hui. Bienvenue à toutes
Volontiers.
et à tous, et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Pour commencer, eh bien, David Schnee, vous avez écrit ce magnifique livre, Rumpelsbourg, que vous pourrez retrouver sur le site de Radio Judaïka. Ce sont vos souvenirs, anecdotes et délicatesses, comme vous le dites si joliment, de votre enfance et de la cuisine alsacienne, judéo-alsacienne, de votre grand-mère, de votre famille. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre, David Schnee?
Alors au début, je voulais rendre hommage à mes parents et à mes aïeux en particulier. Et je ne savais pas par quel bout le prendre. Et finalement, c'est venu naturellement d'évoquer les souvenirs culinaires et gastronomiques de mon enfance pour parler d'eux. Parce que j'ai beaucoup traîné dans les cuisines de mes grands-mères et de ma mère. Et donc, ça a été une porte d'entrée pour me souvenir, un peu comme une Madeleine de Proust, mon enfance. Voilà.
Alors, vous parlez de votre enfance, vous parlez de votre famille, vous évoquez les souvenirs des fêtes, des moments familiaux, des moments des fêtes juives, des Yom Tov, et le tout est illustré, magnifiquement illustré par Jean-Martial Estève, qui a dessiné sur un format extrêmement agréable. On pourrait presque dire, c'est pas enfantin, je ne sais pas quel est le thème que l'on peut donner, mais en tout cas, il y a un côté extrêmement convivial. Et à l'écriture de votre livre et aux illustrations que vous avez enrichies également de gravures, entre autres d'Alphonse Lévy, de souvenirs, de photos réalisées dans retrouvées dans des archives. C'est extrêmement touchant tout ce que vous y mettez. Comment est-ce que vous avez sélectionné les recettes et est-ce que vous avez dû puiser dans votre mémoire pour les retrouver ou c'était quelque chose avec lequel vous vivez depuis de nombreuses années?
C'est venu assez naturellement, c'est-à-dire que le plan du livre s'est établi en fonction des recettes de cuisine. Et à partir des recettes de cuisine, j'ai retrouvé les souvenirs. Comme vous le disiez, cet ouvrage est aussi richement illustré par des dessins et par des photographies et des gravures d'archives. Et je tenais à remercier le musée alsacien de Strasbourg et la Société d'histoire israélite d'Alsace et de Lorraine, ainsi que l'écomusée d'Unersheim, qui m'ont mis à disposition un fonds iconographique très riche qui vient compléter les créations de Jean-Martial Estève. Tout à fait.
C'est très riche, c'est extrêmement tendre et c'est en fait un mix finalement de souvenirs, de Madeleine de Proust, comme vous l'évoquiez en off tout à l'heure, et aussi de recettes. On en parlait avec Mireille Israël. Finalement, Mireille Israël, ça change de ces livres de cuisine de 3,5 kg où il faut être à deux pour les porter et pour trouver une recette. Il y a beaucoup de proximité et je crois que c'est ce qui vous a aussi beaucoup touché, Mireille Israël.
Tout à fait. Alors le format, moi j'y suis particulièrement sensible, la police de caractère aussi, la mise en page aussi, et je sais que pour cela on peut tirer notre chapeau aussi à une amie très proche de David. Le terme de touchant, touché, je crois que c'est tout à fait juste, puisqu'en fait on a à la fois l'histoire de la famille, à la fois les recettes mentionnées très en détail, et que l'ensemble donne vraiment un mix d'ingrédients qui permet de bien comprendre, de bien faire vivre cette Alsace rurale aussi. Je crois que ça, c'est très important. Moi, je suis effectivement strasbourgeoise, ayant habité 30 ans Colmar, mais je suis une urbaine. La vie familiale rurale, je la connais essentiellement par des récits. Celui-là en sera un de plus, Et moi, je dois dire que j'ai énormément apprécié l'iconographie, riche, authentique. Alphonse Lévy vit vraiment dans le livre. On a l'impression qu'il s'adresse à nous au moment des recettes. Et je trouve que ce monde qui vit, qui est expliqué par David, est particulièrement réussi. C'est une sorte, c'est justement l'illustration du vivre ensemble, je crois, et ce vivre ensemble multigénérationnel qui échappe sans doute à ma génération, même si on est proche des dinosaures. On n'a pas forcément conscience de cette, de ce microcosme multigénérationnel, et moi, ça m'a vraiment plus que touchée, ça m'a fait réfléchir, d'autant que le livre commence par l'expression « vie », que moi, j'y ai aussi mis le mot « vie » et que tout ce, cet ensemble vit de façon remarquable dans cet ouvrage, à mon avis.
Préciser cette génération, ces intergénérations et cette interculturalité qui nous est très, très chère, particulièrement en Alsace, où c'est vrai que nous avons toujours eu l'habitude, dans toute la région, eh bien de côtoyer nos coreligionnaires, mais également les autres religions. Et là, on a les générations, les cultures, les religions qui s'entremêlent avec beaucoup de joie. Ce qui n'est pas forcément le cas là où vous habitez, David Chenet, aujourd'hui à Bordeaux. Est-ce que vous sentez cette différence culturelle et comment est-ce que ce livre justement est accueilli au travers des non-initiés dans votre région, par exemple, aujourd'hui?
Alors, ce livre a été accueilli avant son édition par des proches à qui j'avais fait tester la lecture de ce livre, et après l'édition aussi. Et comment il est accueilli, c'est très simple. C'est-à-dire que ça répond entièrement à mon intention première, qui était de pouvoir évoquer, réveiller les souvenirs du lecteur, leurs propres souvenirs, en évoquant les miens. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour me mettre en avant, me mettre en scène, mais l'évocation de souvenirs intimes, personnels, familiaux, associés à quelque chose d'aussi intime que la cuisine, permet aux lecteurs, et c'est l'expérience qui est vécue par eux, de ce qu'ils me disent, et de pouvoir se souvenir de leur propre mémoire d'enfance.
Évoquer ces mémoires d'enfance avec beaucoup de tendresse, et je prendrai juste un petit extrait du livre où vous évoquez la mort de votre grand-père, où avant votre bar mitzvah, seuls les repas tenaient lieu de rituels, hein, une chose importante dans la culture juive. Puis je fus en âge d'exécuter les prières, d'entonner les cantiques, pendant que mon père assurait de manière bienveillante le rôle de chef de famille qu'il prenait sous son aile protectrice, en animant la conversation, paroles relancées, atténuées, distribuées, avec l'art consommé de l'homme public et politique qu'il était. Vous dites « Je reconstituais une tradition familiale, judéo-alsacienne, rurale, avec ses souvenirs rapportés, l'éducation religieuse que je recevais, l'ambiance chaleureuse des discussions et les plats de Mamie Alice. » Pouvez-vous nous parler de Mamie Alice, David Schnee?
Alors, ça m'émeut beaucoup, là, ce que vous venez de lire. C'est un passage qui m'est très cher. Mamie Alice, c'est ma grand-mère maternelle. Donc, la mère de ma mère, qui était mariée à mon grand-père, Adolphe Veil. Qu'est-ce que je peux en raconter? Plein de choses.
Elle est très présente dans le livre, hein, évidemment.
Oui. Hein. C'est un personnage qui m'a été très cher, effectivement. Ça a été le point de départ de la rédaction de ce livre.
C'est important parce que Mamie Alice, c'est vrai qu'elle nous livre ses recettes, vous avez des conversations avec elle et on la sent extrêmement présente et influente et sur votre vie et sur la rédaction, comme vous venez de le dire. Je ne veux pas vous mettre, bien sûr, en mode trop émotionnel, David, mais en tout cas, on ressent l'émotion et on la partage avec nos auditeurs. Il y a un art dans la cuisine qui est souvent quelque chose d'important, et je pense que Mireille Israël ira dans ce sens aussi, c'est assortir les restes. Ça tombe bien, c'est le nom d'un des chapitres. Vous dites « Ma mère prépare toujours un peu plus d'aliments que nécessaire, c'est que lorsqu'elle cuisine un plat, comme un joueur d'échecs aguerri, elle pense déjà au coup suivant ». Ainsi, avec les quantités de rab, elle élaborera une autre recette. Alors, je ne sais pas si c'est très alsacien, très judéo-alsacien, mais c'est sûr que. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que c'est très français. C'est que quand on est à table, on est en train de manger quelque chose, on parle déjà du repas suivant. Mais c'est encore plus exacerbé dans la culture juive.
Oui, notamment à Yom Kippour, où on se suspend du jeûne, se suspend de la nourriture, se suspend réflexif, introspectif. Il me semble me souvenir que à la synagogue, les gens évoquaient de plus en plus fortement, au fur et à mesure de la journée de prière, la mémoire culinaire. On évoquait des plats. Un peu comme si ce suspens redonnait l'envie de quelque chose, redonnait envie de quelque chose. Et c'est très drôle que vous évoquiez ma mère, parce que ma mère prétend, malgré tout ce que je peux en dire dans le livre, prétend ne pas aimer cuisiner. Elle dit cuisiner parce qu'elle aime bien manger, mais elle n'aime pas cuisiner en soi-même. Et donc, elle fait beaucoup d'efforts pour varier les plats et les recettes quotidiennes.
Et Israël, qu'est-ce que ça vous évoque, ce que nous venons d'entendre là, vos souvenirs également qui se croisent à ces réflexions, en tout cas ces descriptions de David Schnee?
Tu as parlé de la mamie Alice, moi c'est vraiment ce qui m'a frappée, et c'est ce que j'ai mis déjà dans la préface, c'est qu'elle revit ou elle continue à vivre de façon extraordinaire. Quant à l'art d'accommoder les restes, je trouve que si c'est dans notre tradition à nous, c'est très à la mode, puisqu'aujourd'hui, il y a des grands chefs qui font des émissions culinaires pour expliquer comment utiliser les restes. Et nous, on a l'impression que c'est dans notre ADN. Ça me frappe beaucoup, ce côté-là. Je pense que notre éducation judéo-alsacienne a été extrêmement bien pensée, parce qu'on a en nous, en gros, tous les ingrédients pour réussir à la fois notre vie de tradition et à la fois notre vie dans le siècle. Moi, c'est en tous les cas ce à quoi je m'attache. Il y a un terme qu'on n'a pas encore utilisé pour caractériser le travail de David qui, pour moi, est fondamental, c'est le terme de transmission. Je trouve que ce livre transmet énormément d'éléments. J'ai déjà eu l'occasion d'en discuter avec des amis qui l'ont lu et vraiment, c'est très réussi. Donc, il y a la tradition, il y a la transmission. Et quelque chose qui m'a fait réfléchir encore davantage, c'est la notion de rituel. Puisqu'en fait, on le voit à tout moment dans les recettes, cette continuité. Et excusez-moi de parler de ma petite personne, mais ça m'évoque quelque chose de très précis. Lorsqu'à l'occasion d'une fête où nous sommes réunis, je tente une nouvelle recette, tout le monde me regarde en me disant « oui, c'est bien ». Mais ce qu'on a toujours mangé, c'est encore mieux. Pourquoi est-ce que tu veux absolument changer ? Quand je veux changer, c'est pour moi. Mais les autres n'attendent pas ça. Les autres attendent justement ces repas rituels. C'est quelque chose qui continue. On est à l'ère d'Internet, on arrive sur Mars. N'empêche que chez nous, la tradition, la transmission, et qu'elles sont vraiment toujours aussi importantes. Et j'ajoute toujours le terme de modernité. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout obligé de s'accrocher à la nostalgie au temps passé, mais on peut arriver à une modernité dans cette tradition. Et David l'exprime très bien.
Merci Mira Israël pour ce complément de transition et transformation et de transmission, parce que c'est vrai que moi, c'est drôle parce que ce que vous évoquez, moi j'ai la même chose à la maison, dès que j'innove, on me dit mais non, fais comme d'habitude, c'est ça qu'on vient chercher, c'est ça qu'on aime, et je reproche ça à ma propre maman aussi quand elle veut me faire des nouveautés alors que nous sommes en recherche. Cet attachement que vous précisez si bien, et l'un et l'autre, Mira Israël et David Schnee, à l'occasion de la sortie, je le rappelle, de votre livre, David Schnee, Rumpelspur. J'espère que je le dis bien. Comment vous le dites, David, d'ailleurs, avec le bon accent?
Comme vous, je Rumpelspur, oui, voilà. Voilà. Ça vient de la Rumpelsnacht. Ce mot m'est venu comme ça. J'ai découvert récemment que c'était un mot qui avait déjà été employé, mais peut-être pas de la même manière que... pas avec la même intention que je lui donne. Donc Rumpelspur, j'ai trouvé d'un mot yiddish qui est la Rumpelsnacht, c'est-à-dire la nuit du remue-ménage à la fin de la Pâque juive en Alsace, chez les Juifs donc, chez nous, où à la fin de Pessah, on rangeait tout le matériel de Pessah et on ressortait la vaisselle du reste de l'année. Et donc, ça faisait une sorte de remue-ménage le soir même de la sortie de Pessah. Et donc, Rumpelspur, à contrario, n'est pas un remue-ménage, mais un remue-méninge. Voilà, donc cette espèce d'agitation comme ça, saine, autour du souvenir et de la mémoire.
C'est une très belle image, un très joli mot que vous partagez avec nous. Nous sommes début février, nous approchons, mi-février, pardon, et nous approchons de Pourim, le carnaval d'Esther, auquel vous consacrez également un chapitre, ainsi que pour toutes les fêtes juives et leurs spécialités. Pessah, c'est dans un mois, c'est ce qui nous permet de nous suivre dans ce calendrier. Je ne vous laisserai pas partir, David Schnee et Mireille Israël, bien sans donner et sans mettre en appétit nos auditeurs avec une recette ou peut-être un début de quelque chose que vous aimeriez partager avec eux. Si on est à Pourim, est-ce que l'on parle des spécialités de Pourim et des Homentaschen, par exemple?
Alors, je ne connais pas le mot que vous venez de prononcer.
Ah, les oreilles d'Aman.
Voilà, oui. Merci. Alors, dans notre famille, effectivement, il y avait des Purim Kishlish, c'est-à-dire des beignets de Purim, mais on confectionnait des Viverschenk là, chez nous pour ces beignets. C'est une sorte de beignet à base d'amandes et de citron. Et qui roulait en fuseau et plongé dans l'huile. Et j'avais une grande tante, la belle-sœur de ma grand-mère Alice, qui les préparait délicieusement parce que la pâte d'amande fondait au cœur du beignet tellement elle les avait pris rapidement dans l'huile bouillante. Et c'était une délicatesse formidable que nous dégustions pour Pourim.
Page 80 dans le livre.
Page 80, livre que vous pourrez bien évidemment commander sur le site de Nouvelles Traces, les éditions de David Schnee et de son association qui édite ce livre et bien d'autres encore. Mais celui-là, bien sûr, on vous le conseille tout particulièrement. On aura l'occasion de redonner encore d'ici quelques minutes toutes les coordonnées pour pouvoir le commander. Mireille, je ne vous laisse pas partir sans une recette de votre part ou un conseil culinaire. Parce que peut-être qu'on a parlé d'alimentaire, on a parlé de tradition, mais parlons aussi un peu de vin. Qu'est-ce que vous nous conseillez avec tout ça, Mireille Israël?
Je ne vais pas donner un vin précis, mais je vais quand même rappeler à tout le monde que dans la tradition juive, les deux fêtes où l'on boit vraiment, c'est Pourim et Pessah. C'est-à-dire que dans les milieux religieux, on boit très peu, sauf à ces deux fêtes. Celle de Pourim est particulièrement intéressante, puisqu'en fait, il faut même, d'après les commandements, aller jusqu'à s'enivrer pour pouvoir essentiellement dire ses vérités à son voisin, être désinhibé en quelque sorte. Et c'est quelque chose qui, je crois, est très, très mis en pratique dans les milieux donc pieux, on va utiliser ce terme. Et une fois que la fête est finie, on oublie tout ce qui a été dit et on reprend le cours normal. Et sinon, comme chacun le sait, à Pessah, il y a ces fameuses quatre coupe de vin obligatoire, entre guillemets, qui ponctue l'ensemble de la soirée. Donc, c'est intéressant d'évoquer cette question. De plus en plus, sachez que le choix se porte sur les vins israéliens pour ces fêtes-là. À l'heure actuelle, vous avez tout le panel, c'est-à-dire le vin rouge, bien sûr, le vin blanc et de plus en plus le vin rosé, comme partout dans le Nouveau Monde. Voilà.
Bien, merci beaucoup, Mireille Israël, pour ces éclaircissements. Moi, je vais vous dire une chose, je vais vous dire la vérité, Mireille Israël, et surtout David Schnee, et sans être enivré, votre livre est extraordinaire. C'est un devoir de transmission et de tradition que de l'acquérir. Donc, faites non pas une bonne œuvre, mais faites-vous simplement plaisir ou faites plaisir à vos proches et achetez ce livre, Rumpelspur, Souvenirs, anecdotes et délicatesses de David Schnee aux éditions Nouvelles Traces. Vous le trouverez évidemment sur le lien sur le site de Radio Judaïka, www.radiojudaïkastrasbourg.fr. Et en attendant, et surtout pour nous quitter, qu'est-ce qu'on pourrait se dire pour se quitter, Mireille Israël, David Schnee, Götter, comme on dit en alsacien,
un bon appétit. Le Chaim, à la vie.
À la vie. On a démarré à la vie, on termine à la vie, David Schnee.
Oui, Bessara, une bonne lecture, et en espérant que mon livre soit aussi un moyen aux non-juifs de découvrir un peu notre monde et notre culture.
Eh bien, de toute évidence, ça sera le cas. Je vous souhaite à toutes et tous un bon Pourim, de bonnes fêtes de Pessah à venir et un grand merci d'avoir participé à cette émission. Vous retrouverez bien sûr toutes les informations sur le www.radiojudaïkastrasbourg.fr et en podcast sur notre site. Merci beaucoup David Schnee, merci Mireille Israël. Très belle journée à toutes et à tous.